Bonjour. Alors, il y a des fois où on cherche pendant très longtemps à trouver de quoi on va parler et on a du mal à se décider. Et en fait, depuis janvier, moi, c'est assez facile. Il suffit de décrire ce que le Seigneur fait dans ma vie et puis ça fait une prédication. Donc, je continue sur la lancée. Le Seigneur, il continue plus ou moins dans la même voie. Et donc, je vous partage. Moi, ça m'a forcément parlé, ça m'a travaillé et j'espère que ça fera la même chose pour vous. Alors, ça va tourner autour de Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, donc c'est Paul qui parle aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je vous soutiens encore. Alors, il y a de quoi faire 10 ou 20 prédications avec ça. Je me suis juste concentré sur deux choses pour lesquelles le Seigneur m'a parlé. C'était le verset 27 en lui-même. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Et l'idée aussi que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Et c'est que j'entende dire de vous. En fait, c'est les deux idées. C'est une seule idée, mais vue de deux facettes, en fait. C'est qu'on se comporte d'une manière digne pour le Seigneur. Donc, il y a l'aspect que moi, je dois me comporter correctement. Et il y a l'aspect qui est complémentaire, c'est que les gens reconnaissent que je me comporte dignement. Et que pour Dieu, je sois quelqu'un de digne. Alors, il n'y a pas que dans Philippiens qu'on la retrouve, en fait, cette idée-là. On la retrouve après dans Colossiens et puis dans... Juste après, il me semble. Donc, dans Colossiens, chapitre 1, et les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc au verset 10, donc, la prière de Paul, c'est que les Colossiens marchent d'une manière digne du Seigneur et lui soient entièrement agréables. Le « c'est pour cela », on lit « c'est pour cela », mais il faut remonter avant, il renvoie en fait au premier paragraphe où Paul il entend dire des Colossiens, « j'ai été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints ». C'est le verset 4. Et c'est juste un petit aparté, mais je trouvais ça intéressant que il entend parler de leur foi et de leur amour. On pourrait dire, bah alors eux au moins c'est bon, ils sont stables, voilà, tout va bien. Et bah du coup, ils prient pour eux, pour qu'ils marchent d'une manière digne de l'Évangile. Et nous, on a tendance à faire un peu l'inverse. On attend que les gens ils aillent pas bien, et puis là, on se dit, oh là là, faut prier pour eux qu'ils puissent marcher d'une manière digne. Et en fait, là, Paul, il hésite pas dans toutes les circonstances. En fait, il faut prier pour les autres, il faut les encourager et qu'ils puissent marcher de la bonne manière. On retrouve après, donc, dans Colossiens 3, au verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, c'est toujours le même principe. Hein. Et au verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc, pas seulement sous les yeux des hommes pour leur plaire, mais en toute chose, il faut le faire dans la crainte du Seigneur, et il faut faire toute chose comme pour lui, et pas pour les hommes. Alors, je repars dans Philippiens. Donc, le Philippiens 2, c'est juste des versets qui sont assez similaires et qui soulignent l'idée. Donc, Philippiens 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » On peut continuer d'ailleurs. « Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Donc, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. On pourrait même s'arrêter là, en fait, avec la prédication, et je vous laisse réfléchir à tout ce que ça implique après, ces versets-là. Est-ce que ma vie, elle est comme ça? Alors, c'est vrai que souvent, on a tendance à dire, bon, bah voilà, ouais, ma vie, c'est à peu près un témoignage, c'est bon, les gens, ils voient que je suis au Seigneur, et voilà. Mais je voulais regarder, enfin, moi, cette question-là, ça m'est venu en tête, et c'était vraiment d'un côté très, très pratique. C'est pas juste dire est-ce que je reflète l'amour, est-ce que je reflète les fruits de l'esprit, et puis c'est un peu toute la théologie, quoi, toutes les grandes idées qu'on trouve dans la Bible. Mais je me disais, quand je dis quelque chose, est-ce que je suis un témoin du Seigneur, est-ce que c'est digne de l'Évangile? Quand je conduis en voiture, c'est très pratique, ma façon de conduire, est-ce qu'elle est digne du Seigneur? Est-ce que mon comportement quand quelqu'un me fait une queue de poisson, c'est digne du Seigneur aussi? Ou est-ce que de temps en temps, il faut faire des petites coupures dans ma vie? On ne le fait pas, ça, en fait, normalement, sur les prédications. On ne fait pas de coupures, vous savez. On laisse tout en entier, et puis les gens, ils entendent tout. Et dans nos vies, est-ce qu'on a besoin de couper certains passages? Et bon, on essaie de ne pas regarder. Bon, il y a eu quelques erreurs, et puis voilà. Ou est-ce que les gens peuvent voir tout le film de notre vie et dire oui, il marche d'une manière digne du Seigneur? À la maison, est-ce que mon comportement avec Maï, avec Raphaël, il est digne du Seigneur? Et quand Raphaël commence à m'énerver, est-ce que mon comportement, il reste digne du Seigneur? Il y a des trucs très pratiques comme ça. Au boulot, quand je supporte plus quelqu'un parce qu'il y a quelque chose, une injustice, parce que, je sais pas moi, il n'est pas compétent. J'ai un exemple très précis en tête, hein, je peux pas vous le dire, mais qu'est-ce que mon comportement dans ce cas-là? Comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que je dis? Et où est-ce que j'amène les choses? Je pense que c'est pareil sur tous les lieux de travail. On se retrouve facilement à râler derrière les gens et à dire « Oh là, lui ceci, lui cela, lui machin. » Et quand les gens sont là, après, bah, on fait comme si de rien n'était. Ou alors, on fait des choses par derrière. On va voir quelqu'un pour qu'il se prenne un retour, quoi, mais d'une manière indirecte. Enfin, y a plein de choses à faire quand on est sur un lieu de travail. Mais d'une manière digne de l'Évangile, ça limite déjà ça limite le nombre de choses à faire, le nombre de réactions possibles. Et je voudrais vraiment vous encourager juste à réfléchir d'une manière pratique à ce verset-là. Dans toutes les choses que vous faites, dans toutes ces choses-là, est-ce que votre comportement, il est digne de Dieu? Une dernière chose, alors vous le prenez comme vous voulez. Ce que j'ai sur mon ordinateur, est-ce que c'est digne du Seigneur? Est-ce que... alors, moi, c'est mon avis. Est-ce que je télécharge d'une manière illégalement de la musique, des films? Qu'est-ce que je regarde sur mon ordi? Est-ce que mes logiciels, ils sont légaux ou pas? On peut dire, oh, mais là, Michael, tu nous casses les pieds avec ces trucs-là. Il y a des choses, on n'a pas le choix, puis voilà. Ça, c'est l'avis de chacun. En tout cas, moi, depuis des années, j'ai eu à cœur du Seigneur d'avoir un PC qui est totalement propre. Et n'importe qui pourrait me le prendre. Il n'y a pas de logiciel piraté, il n'y a pas de musique piratée, il n'y a pas de film piraté. Et je suis conscient que je dis ça au micro et que ça passe sur Internet après. C'est un avis personnel, mais pour moi, j'ai ressenti du Seigneur que c'était important d'être propre aussi sur ce côté-là. Et le jour où il vous arrive quelque chose... Ouh, il y a des regards. Le jour où il vous arrive quelque chose... Imaginez, vous recevez, je sais pas moi, bon c'est vrai que c'est assez rare comme cas, mais la police vient vous saisir parce que voilà, on a repéré qu'il y avait ça et ça, vous pouvez leur annoncer l'Évangile en même temps? Bah, pas trop. Et c'est pareil, le jour où votre collègue il vous a fait quelque chose qui va pas, vous énervez contre lui, vous avez encore l'occasion de lui annoncer l'Évangile là dans la minute qui suit? Bah non, on est obligé de négocier un peu, après essayer de calmer les choses, de demander pardon, et après on peut repartir sur des bases saines. Mais du coup, témoigner, enfin, avoir un comportement qui est digne de l'évangile, ça veut dire qu'en tout moment, je dois pouvoir annoncer l'évangile en même temps que ce que je fais, que ce que je dis. Ça aussi, c'est compliqué. Alors, on l'a lu tout à l'heure, en fait, c'est pas juste devant les yeux des personnes. C'est mon comportement, il doit tout le temps être comme ça, et je dois le faire pour le Seigneur. Pas juste parce que j'ai peur des hommes, parce que j'ai peur des lois qui existent ou autres. Mais je dois pouvoir le faire à tout moment, que les hommes me regardent ou pas. Et ça, c'est lié au fait qu'on n'est pas là juste parce qu'on a une religion, parce qu'on a des manières de faire, qu'on a appris un peu des rites, enfin des façons d'être ici à l'Église, mais parce que j'ai la foi. Et que la différence entre la religion et la foi, c'est que la religion, c'est juste un système qu'on utilise comme ça, mais qui n'est pas dans notre cœur. Et si je crois réellement au Seigneur, si j'ai réellement foi en lui et en tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, alors ça veut dire que ça implique toute ma vie, ça implique tout ce que je fais. C'est pour ça qu'être religieux, ça n'empêche pas de faire des choses à côté. Il y a des gens qui se disaient religieux et qui ont commis des attentats. Je pense encore à ce monsieur en Finlande, il n'y a pas longtemps, ou en Norvège, je ne sais plus, qui a tué 70 personnes. Et on a entendu la première chose à la radio que c'était un chrétien fondamentaliste. Mince. Et on peut tout à fait commettre un tas de choses comme ça. Les croisades s'étaient faites au nom de Dieu. Des gens qui se disaient qu'il y avait une religion et qui pourtant n'avaient rien à faire de Dieu. Alors la plupart du temps, c'est des choses ringardes. Hein. Le problème, c'est que conduire correctement, ça va. Il y a la sécurité routière qui fait beaucoup de pubs. On est un peu dans le bon sens. Mais avoir mon ordi propre ou certaines choses, c'est vrai que c'est ringard. Mais c'est obéir à Dieu. C'est faut choisir. Je pensais aussi à... Des fois, on me dit, est-ce que tu pourrais faire telle chose, Michael? Bah, attends, je vais demander à ma femme et je vais demander ce qu'elle en pense. Non. Toi, tu demandes à ta femme l'autorisation de faire ça? Oh, t'abuses, hein, sérieux. Enfin, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et pareil dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est peut-être encore plus mal vécu. Certaines femmes qui vont demander l'autorisation à leur mari de faire telle ou telle chose. Et pourtant, c'est un comportement digne de l'Évangile parce que le fait de demander, c'est-à-dire que je prends attention à la vie de l'autre, ça veut dire que je l'aime. Ça veut dire aussi que j'ai compris que se marier, c'est pas chacun vivre sa vie et puis être quand même dans le même bâtiment. Ça veut dire vivre ensemble et donc avoir des choix ensemble. Il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est très très pratique comme verset, le verset de Philippiens au départ. Alors, il y a plein de choses où voilà, les versets ils sont connus. Je vous les relis quand même, des fois que vous ne seriez pas convaincus. À propos de ce qu'on dit, de ce qui sort de notre bouche, j'ai choisi Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors, ni plaisanterie, il a été traduit par propos déplacés, il me semble, dans certaines traductions. Jacques 3, verset 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur, donc par notre langue. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, sur l'obéissance, ça aussi, on en a discuté avec les ados. C'est dur d'obéir, en fait, simplement. Que ça soit à nos parents, que ça soit, on en a parlé encore mardi, d'ailleurs, que ça soit à notre chef, à notre directeur, à, je sais pas, à qui d'autre encore, aux lois. Et pourtant, la Bible, elle nous répète sans cesse d'obéir. Et on a Hébreux 13, verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et d'une manière plus générale, là c'était obéissez à vos conducteurs dans l'Église, d'une manière plus générale dans Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et ça, c'est Paul qui le dit en parlant de l'autorité romaine. Je ne pense pas que les Romains étaient connus pour pour leur gestion impeccable du royaume ou de l'empire. On est censé obéir même aux autorités de notre pays. Pourtant, ils font des choses qui vont pas, des fois. Tant que ça vient pas en contradiction avec ce qu'on croit, avec ce qu'on reçoit du Seigneur, alors on doit leur obéir. Et ça, c'est un ordre du Seigneur. Il y a un tas de versets comme ça. Hein. Je vous les lis ceux-là parce que pour moi, c'était les choses qui étaient importantes. Mais vous trouverez pour chaque point... Alors, il n'y a pas peut-être de verset sur conduire correctement, sur être correct au volant. Mais on trouvera, je pense, des versets un peu plus généralistes sur le comportement, sur les réactions qu'on doit avoir et tout ça. Alors, heureusement, on a des modèles à suivre. Quand le Seigneur il nous dit d'être des témoins, d'avoir un comportement digne, on a des modèles. Donc, on pense à Jésus. C'est le premier modèle. Mais Jésus, on a tendance à avoir que c'est un comportement... Enfin, c'est... Je sais pas, pour vous, c'est un peu loin, en fait, des fois. Alors, c'est vrai qu'on a toute sa vie qui est racontée. En tout cas, certains passages clés. Mais c'est un peu théorique. Et des fois, on a du mal à dire, Jésus, l'exemple qu'il a donné, il n'a pas vécu à mon époque, avec les ordis, avec la voiture et tout ça. Avec le travail comme ça et les gens qui sont pénibles au boulot. Lui, il n'avait pas de chef finalement. Il n'a pas travaillé pendant toute la partie qui nous intéresse dans la Bible. Il n'a pas travaillé. On ne sait pas comment il a réagi. Et quand son chef il lui cassait les pieds, il réagissait comment, Jésus? Alors du coup, on a des exemples un peu plus concrets. Et dans Philippiens 3, verset 17, c'est Paul qui dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle, selon le modèle que vous avez en nous. » Le modèle, il est en Paul, en ceux qui nous conduisent. Et je pense que l'idée de Paul derrière, c'est que nous aussi, on soit des modèles après. On peut pendant un moment suivre les gens et les avoir pour modèles. Et après un certain temps, il faut vraiment qu'on s'accroche au Seigneur et que nous-mêmes, on devienne des modèles pour les autres. Et quand les autres se disent, c'est quoi un comportement correct, qu'ils se retournent vers nous, qu'ils disent, ah ouais, lui, il agit comme ça. Je pense que c'est ça, honorer le Seigneur. Alors, c'est ça le bon comportement. Et on voit cette idée-là un peu dans Philippiens 4. On reste beaucoup dans l'épître aux Philippiens, c'est l'idée. Philippiens 4, verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, en réfléchissant, je me disais, en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas des modèles. J'ai pas une foi qui est bas de gamme et que Paul, il avait une foi qui était plus grande et que j'aurais jamais. Je crois la même chose que Paul. J'ai la même foi que lui. Alors, je dois pouvoir, comme lui, être un modèle. Alors, j'ai mis, il faut travailler à ça. Même le dimanche. Il faut travailler à ça, et il y en a qui pensent que c'est pas à nous de travailler, qu'il faut laisser faire Dieu. Il y en a après qui prennent le problème à l'inverse, qui disent si, c'est à nous à faire quand même. Et puis, en fait, le verset qui résume, je pense, le mieux ça, c'est dans Colossiens 1. Colossiens 1, verset 28. Donc, c'est Paul qui parle, et qui dit, c'est en lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et le verset 29, donc, qui m'intéresse, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et Paul, il a le secret un peu de ces phrases qui sont toutes... qui sont un peu complexes dans un sens, et qui pourtant expliquent correctement des choses qui sont difficiles à saisir. Et là, c'est lui qui travaille, mais c'est la force de Dieu qui agit en lui. Et c'est la même chose dans le verset que cite souvent José. Ce n'est plus moi qui vis, mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un verset un peu, les gens qui le liraient comme ça sans connaître la Bible, ils disent c'est quoi son truc, il y a des conjugaisons qui vont pas là-dedans. Mais non, c'est juste que c'est Paul qui vit, mais plus vraiment, c'est Christ qui vit en lui. C'est un peu les deux qui travaillent en fait. Et il y a un mélange de ça dans nos vies. Je dois faire un effort, je dois faire ma partie du travail à moi, mais je le fais avec la volonté, avec la force du Seigneur. Et on retrouve un peu la même idée dans 1 Corinthiens 15. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On reste dans cette idée que c'est Paul qui a fait les choses quand même, on ne peut pas dire c'est Jésus qui a fait et Paul il a servi à rien. Il y a des personnes qui ont reçu les mêmes choses que Paul et qui finalement sont restées assis et n'ont rien fait. Il a eu le mérite de continuer de persévérer dans les choses de Dieu. Mais c'est quand même Dieu qui l'a fait en lui et qui l'a fait à travers lui. Donc ça, c'était la première idée du verset de Philippiens. Le deuxième aspect, je vous disais, c'était l'aspect de vue de la part de Dieu, en fait. Là, c'était l'aspect « je travaille, j'ai un comportement qui est digne de l'Évangile ». Et le deuxième, en fait, ça tourne un peu autour de la réputation de Dieu. Donc je vous disais, quelque chose qui était terrible, c'était ce garçon-là en Norvège qui a tué 70 personnes. Et moi, ça m'a marqué, c'est que l'une des premières choses qu'ils ont dit à la radio, c'est un chrétien fondamentaliste. Je me suis dit, ils avaient pas besoin de le dire, en fait. Ça a très peu de rapport avec l'affaire, dans un sens, parce que ce qu'il a fait, c'était pas lié à sa foi, ou très légèrement, dans le sens où il voulait, je sais pas, il y avait un idéal assez élevé, et il voulait aider à tout ça, mais bon. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que c'est les chrétiens qui salissent le plus le nom de Dieu. Parce que si quelqu'un de pas chrétien fait quelque chose de mal, ben il le fait et ça n'engage en rien Dieu. Par contre, si c'est un chrétien qui le fait, alors Dieu est engagé. Quand cette personne fait quelque chose de mal, c'est Dieu qui fait quelque chose de mal directement. Et c'est pour ça que quand on dit c'est ce garçon, il est chrétien fondamentaliste, c'est à ce moment-là où on salit Dieu. Il aurait fait ça, il aurait été, je sais pas moi, il aurait été musulman, il aurait sali le nom d'Allah. Il aurait été d'autres choses, il aurait sali autre chose. Mais là, c'est l'étiquette Dieu qui est sur lui quand il fait les choses. C'est un verset que j'ai mis plus loin, mais on est ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire quand un ambassadeur fait quelque chose de mal, c'est son pays qui prend les représailles en fait. Il représente son pays et je représente Dieu dans tout ce que je fais. Et au départ, je m'étais dit, Dieu, il n'y en a rien à faire de ce qu'on dit de lui. Après tout, des fois, on se dit ça, on a pris quelque chose de mal dans la figure, on a pris un truc, ce que t'as fait, c'est nul, ou ça, c'est moche, ou je sais pas trop quoi. Et puis, il y a des gens qui viennent nous consoler en disant, mais non, toi, tu sais ce que tu vaux, toi, tu sais ce que t'es, et puis voilà. Tu tiens pas compte de ce qu'on dit de toi. Mais finalement, Dieu tient compte de ce qu'on dit de lui. Alors dans Ézéchiel 20, on va pas lire le passe, enfin, on peut. Ézéchiel 20, il y a un verset qui revient 4 fois et qui insiste vraiment que Dieu fait attention à sa réputation, à ce qu'on dit de lui. Donc c'est à partir du verset 8, Ézéchiel 20, verset 8. Ils se révoltèrent contre moi, donc là il parle des infidélités d'Israël envers Dieu, et c'est Dieu qui parle. Et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe entre eux et moi, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Et on retrouve après encore deux fois au Alors c'est plus loin, au verset 22, au verset 44, c'est à chaque fois « J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère. Néanmoins, J'ai retiré ma main, j'ai agi par égard pour mon nom. Quand il dit j'ai égard pour mon nom, c'est pas juste que ça embêterait Dieu qu'on l'appelle d'une autre manière. C'est pas son nom, c'est pas le fait que je m'appelle Michael qui est important. Son nom, ça représente juste tout ce qu'il est. Et on le voit bien avec tous les noms, El Shaddai, El Elohim, ou tous les noms qui veulent dire quelque chose. Et si Dieu, il prend attention à son nom, en fait, il prend attention à sa personne. Et c'est ça que ça veut dire dans ces versets-là. Alors Dieu, il aurait dû supprimer Israël, en fait, l'exterminer complètement. Et le verset 44, où cette phrase, elle revient, il complète un peu l'idée de Dieu. Donc dans Ézéchiel 20, le verset 44, il dit « Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues aux maisons d'Israël. » Et dans un sens, c'est salvateur pour nous que Dieu y prenne garde à sa réputation. Si Dieu avait dit « Bon, bah voilà, on dit du mal de moi, mais c'est pas grave », il aurait exterminé complètement Israël et puis c'était tout. Le problème était réglé pour lui. Mais parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il a tous ses attributs de sainteté, de justice, d'amour, il pouvait pas exterminer Israël. Et du coup, pour ce qu'il est, il a fait attention à Israël, il les a repris, il les a corrigés, mais il ne les a pas exterminés. Et c'est important pour nous de garder en tête, de faire attention à la réputation qu'on donne à Dieu, parce que lui-même, il fait attention, et il le fait attention dans le bon sens, la plupart du temps. Il le fait attention pour éviter d'aller trop loin et de nous punir de trop. Alors c'est sur ça que s'appuie aussi Moïse quand il négocie avec Dieu sur le mont Sinaï, je pense. On retrouve ça dans Deutéronome 9. Moïse, il connaissait bien Dieu, comme Abraham d'ailleurs, qui a négocié aussi avec Dieu. Donc Deutéronome 9, au verset 24. Vous avez été rebelles. Donc là, ces chapitres-là, c'est Moïse qui revient sur l'histoire d'Israël et qui lui fait un petit résumé, en fait, de ce qui s'est passé. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait, qui les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta puissance et ton bras étendu. » Et c'est en disant ça à Dieu que Moïse, il a évité au peuple de se faire détruire complètement. Dit, les détruis pas, les gens, ils vont dire que tu les aimais pas et finalement peut-être même que t'étais pas assez puissant pour faire quelque chose d'eux. Et parce qu'on aurait dit ça de lui, Dieu s'est retenu et a fait attention à Israël. Il fait vraiment attention à sa réputation, hein, plus que nous, des fois, Dieu. Dans Ésaïe 48, on retrouve aussi « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » On a l'impression que Dieu, il dit, je suis obligé de te corriger, mon enfant, je suis obligé de le faire à cause de moi, à cause de tout ce que je représente. Et on sent en fait la tristesse de Dieu. C'est vraiment à cause de moi que je dois le faire et je suis désolé, je suis obligé de te corriger, en fait. C'est un peu ça, ces versets. Alors ça, c'est tous des versets de l'Ancien Testament. Vous allez me dire, dans le Nouveau, c'est différent, Dieu ne fait plus attention. Bah non, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est les mêmes idées, il n'y a pas changé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc là, juste la notion de « soyez, enfin, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. » On dit que Dieu il fait attention à sa réputation et pourtant c'est nous qui prend comme ambassadeur. Il y a une logique particulière Dieu. Hein. Mais regardez aussi le cas d'Ananias et de Saphira. Alors ça sert d'exemple dans un sens, on n'en retrouve pas après comme ça dans le Nouveau Testament. Mais parce qu'ils ont menti à Dieu, Dieu les a fait mourir. Il n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans 1 Timothée 6, verset 1, on retrouve que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Alors il y a le mot blasphémé, je pensais qu'il était réservé à l'Ancien Testament en fait, ça m'avait jamais marqué plus que ça. Et en fait on le retrouve à plusieurs versets dans le Nouveau justement, où Dieu dit « faites pas ça parce que sinon mon nom sera blasphémé ». Et donc c'est cette idée qu'on retrouvait tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Alors du coup, si blasphémer, des fois on utilise calomnier aussi. Ça paraît un peu moins fort, mais en fait ça veut dire la même chose. Et si calomnier, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire exactement? Parce qu'on a notre idée du mot. Donc calomnier, blasphémer, ça dépend des versions que vous utilisez dans la Bible, mais c'est le même mot au départ. J'avais cherché à calomnie au départ, ça a très peu de rapport ce que je veux dire là, mais c'est pas grave. Chercher à calomnie, et calomnie, c'est l'action de calomnier. Des fois on se heurte au dictionnaire comme ça, on cherche des mots et puis ils nous renvoient de mot en mot. Alors du coup j'étais obligé de chercher calomnier, qui dit attaquer, blesser quelqu'un par des calomnies. Non, en fait, c'était l'inversé, ça. J'ai cherché calomnier, j'ai été renvoyé sur calomnie. Voilà. Je sais jamais dans quel ordre il faut le prendre. Du coup, calomnie, critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Et Dieu, il nous dit, faites attention que mon nom, il soit pas calomnié à cause de vous. C'est-à-dire que je me prenne pas des critiques qui sont injustes, qui représentent pas ce que je suis, que vous ne nuisiez pas à ma réputation et à mon honneur. Et je reprends donc la définition du verbe quand même, parce que c'est un complément. Attaquer, blesser quelqu'un par des calomnies. Quand on fait des choses de mal et que Dieu il est traîné dans la boue à cause de nous, Dieu il est attaqué et blessé par ce qu'on fait. D'où l'intérêt de faire attention à notre comportement et d'avoir un comportement qui est digne de l'évangile. Du coup j'ai recherché blasphémer et j'ai eu le même problème. Proférer un blasphème. Bon, du coup, blasphème est une parole qui outrage la divinité, un discours ou propos injuste ou déplacé. La traduction, finalement, c'est pas la signification n'est pas la même dans les deux cas. Pourtant, le mot derrière dans la Bible, il est le même. Mais donc, une parole qui outrage Dieu, un discours ou propos injuste. On retrouve quand même la notion d'injustice, donc critique injustifiée. Alors, je termine là, une fois que j'ai du temps, je fais court. Avec Romains 2, donc qui est précisément pour nous, et je vous encourage juste à y réfléchir comme le verset qui parle de notre comportement digne de l'évangile. Romains 2, verset 17 à 24. Alors remplacez, quand vous voyez les occurrences de juifs, remplacez-le par chrétien, ça colle tout à fait. C'est pas juste qu'on a le droit de manipuler les versets comme ça, mais l'idée, elle est identique. Toi qui te donnes le nom de juif, de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi, donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges? Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Et ce verset, c'est un avertissement pour nous aussi. Il dit, c'est la responsabilité des Juifs, là, dans ce passage-là. Mais Dieu, il peut nous adresser exactement la même remarque. Toi qui connais tout ça, qui dis que tu peux évangéliser les gens, que tu peux leur apporter des bonnes choses, tu peux les transformer, tu commets ça, ça, ça et ça. À cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Et si un jour Dieu doit nous dire ça, je pense que ça lui fera autant mal au cœur qu'à nous. Il se dira, c'est triste, je veux faire quelque chose de toi et t'as vu où on en est ? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Ce verset, il m'a percuté et je me suis dit, oh là, ça c'est lourd de conséquences. Si Dieu il doit nous dire ça, ce serait terrible. Et c'est pour ça qu'il faut prendre attention à tout ce qu'on a dit avant, au moindre de nos comportements, que tout soit digne de l'Évangile, que tout soit digne de Dieu, et que Dieu ne soit pas calomnié, blasphémé à cause de nous, qu'on ne traîne pas son nom dans la boue. Je vous encourage à relire encore une fois le verset de Philippiens et de réfléchir d'une manière pratique. Qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Pas juste me dire « ouais, je suis à peu près digne, c'est bon, voilà », ou « le Seigneur me rend digne » et puis hop, on oublie tout. Non, 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 dans les moindres détails de votre vie, est-ce que c'est digne de Dieu ? Est-ce que ça nuit à sa réputation ou est-ce qu'au contraire, c'est pour sa gloire ? Voilà. Seigneur, je te remercie pour ces paroles qui s'applique à moi premièrement, et merci de toutes les implications que ça a dans ma vie. Seigneur, c'est des choses qui nous concernent dans la totalité de notre vie, dans les moindres détails, et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, de nous aider à avoir ce comportement qui est digne. Seigneur, nous avons notre part à faire de travail, et en même temps, toi, tu fais la tienne par l'Esprit que tu veux envoyer. Seigneur, on a chanté ces choses tout à l'heure, et on te prie de nous aider à vivre ces choses, et Seigneur, à examiner notre comportement pour voir si nous sommes dans la foi ou pas. Seigneur, merci de ta gloire, de tout ce que tu es, et aide-nous à contribuer à cette gloire, contribuer à cet honneur, Seigneur, et à être des enfants qui te font plaisir. Amen.